Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je dois dire que je suis très reconnaissant à mes collègues du CFU de me donner la parole aujourd'hui, parce que c'est une occasion pour moi de parler de mon travail, qui est rare, un travail de fourmi, et de mettre au grand jour des préoccupations sensibles qui ne présente pas forcément un intérêt dont l'immédiateté est perçue par les utilisateurs. Je proviens d'une... je suis entré dans les bibliothèques par le biais d'informatique et je suis rentré au CFU par la porte que m'a ouverte la FULBI. Et c'est donc une mission un peu délicate avec cette intervention. Puisque là, je suis moins reconnaissant à mes collègues de m'avoir programmé juste avant l'heure du repas. Et je dois veiller à ce que notre auditoire ne reste pas sur sa faim juste avant l'heure du déjeuner. Quand je regarde ce sujet, échanger en une marque nouveaux outils et protocoles, je ne peux pas m'empêcher de souligner la dualité qui est d'ailleurs reprise par le sous-titre. Marx Exchange et SRU sont deux choses qui sont bien différentes, puisqu'il s'agit pour Marx Exchange d'une norme et pour SRU d'un protocole. Et la notion d'échange est forcément duelle, puisque dans le premier cas, elle va concerner la récupération de notices. Donc concrètement, un import ou un export de notices dans une base de données locale. Mais échanger, c'est aussi permettre de consulter un ensemble de références dans un contexte différent. Dans un contexte différent. Donc il s'agit de présenter des outils d'agrégation de références puisées dans des sources hétérogènes, et on retombe bien sur cette notion de dialogue sous-tendue par l'échange. Donc il s'agit de montrer des processus mis en œuvre par l'application de protocoles et par la manipulation de références normalisées, en vue de la création d'une sémantique commune qui va forcément poser la question de l'interopérabilité qui est une question majeure dans les bibliothèques et dans les aménagements qu'on fait pour les utilisateurs aujourd'hui. Donc je ne peux pas m'empêcher de faire un petit rappel sur l'appareil normatif et les protocoles en usage dans les bibliothèques. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas, dans cette présentation, tout à l'heure, Annick nous a rappelé que nous devions être très précis dans les normes que nous citons. Effectivement, la norme ISO 27009 est un acteur majeur dans ces processus. Révisée en 2008 pour permettre l'intégration de caractères codés sur plusieurs octets. D'ailleurs, dans cette norme, on ne parle plus du tout de caractères, mais on parle d'octets. Et qui est donc un format d'échange pour l'information. La norme qui nous intéresse aujourd'hui, Marx Exchange 25577, révisée en 2009, qui est un format généralisé d'échange de notices bibliographiques, mais aussi d'autres types de métadonnées, fondé sur le format XML. La norme Z3950, qui est aussi un acteur de cette interopérabilité, qui est un protocole d'échange qui date de 1984 et qui est devenu normalisé à partir de 1988, je crois. Et puis SRU, dont je vais parler aussi un petit peu tout à l'heure, Search Retrieve via URL, qui est maintenu par la Bibliothèque du Congrès et qui permet d'interroger via le protocole HTTP des bases de données qui sont des bases de données bibliothèques qui sont prisonnières du web invisible, web caché, ou prisonnières tout simplement des opaques et des systèmes d'information. Alors, Marx Exchange, en quelques mots, sur les références normatives, elle fait appel aussi à la norme ISO 646, grossièrement correspond à l'ASCII, c'est-à-dire le jeu de caractères latins suffisant pour l'anglais moderne, codé sur 7 bits et qui permet l'expression de 128 caractères. La norme ISO 10646, il manque un petit caractère, qui met en œuvre l'UTF, c'est-à-dire l'Universal Character Set Transformation Format, un jeu de caractères codé sur plusieurs octets, Alors on parle, j'ai mis une petite remarque ici parce qu'on parle souvent d'Unicode, mais Unicode vise tout simplement à donner à tout caractère de n'importe quel système d'écriture un nom et un identifiant numérique qui permet de le retrouver dans n'importe quel contexte, quelle que soit la plateforme informatique utilisée. La norme ISO 27009, dont on a déjà parlé. Et de toute façon, Marks Exchange est très étroitement lié à la norme ISO 27009. En fait, elle provient à partir de 2001, la bibliothèque du Congrès a ressenti la nécessité de présenter ses données au format XML, mais c'était réservé au format américain, enfin au format Mark 21. On peut dire que Marks Exchange se situe à un niveau supérieur. C'est une version généralisée de Marks XML. Qui sert à représenter tout format existant sous ISO 27009. Donc, c'est un cadre d'élaboration général pour des schémas locaux. Mark 21 et Unimark étant reconnus comme des schémas locaux, mais qui nécessitent quand même quelques adaptations locales pour sa mise en œuvre. Donc, elle assure la compatibilité des schémas locaux simples, sans perte d'information, ou alors dans le cas de perte d'information, elle permet de les répertorier. C'est un schéma conçu de façon à contenir des données MARC, évidemment, et qui peut servir à l'échange de notices MARC ou aussi de moyen de transport pour faire migrer des notices en format natif MARC vers Dublin Core, par exemple. Alors, pour ce qui concerne ces usages majeurs, qu'est-ce que ça peut représenter comme intérêt pour nous dans les bibliothèques? Eh bien, déjà, ça permet de représenter une notice MARC en XML, de décrire une ressource en XML, évidemment d'échanger des notices MARC toujours en utilisant ce même format XML, de transférer des notices MARC via des services en ligne, dont SRU. Donc, de toute façon, la norme et le protocole sont liés. De transmettre, par exemple, des données à un éditeur, mais aussi d'utiliser un format temporaire qui permet toute forme de transformation, comme la conversion, la publication, l'édition et la validation. En gros, si on veut faire entrer une notice Unimark, enfin, au format Marks Exchange dans un cycle de vie du document, dans un workflow par exemple, avec un ensemble de rôles qui sont définis dans la création de cette notice, la validation de cette notice, eh bien ça peut être très commode d'avoir un format natif en XML qui permet à une application de gestion de déverrouiller, verrouiller la notice, de travailler dessus avant de la retranscrire dans un format MARC. Alors, j'ai peu de temps pour rentrer dans les détails, et ce n'est pas forcément le lieu ici de le faire, mais il y a quelques faiblesses quand même. Le format XML présente énormément d'avantages, mais je voulais faire état d'une différence majeure avec ISO 27009 par rapport au contrôle des données. Par exemple, on peut dire que la validation du contenu des notices MARC n'est pas assurée par le format lui-même, contrairement à ISO 27009. Mais forcément, ce rôle va être relégué à l'applicatif. Si je prends une notice au format ISBD, on reconnaît la petite fiche cartonnée traditionnelle des bibliothèques, et que je regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'ISO 27009. Là, j'ai par exemple isolé les caractères du répertoire qui concerne la zone de titre en rouge. Donc on voit bien que ça fait référence à ce qui se passe un petit peu plus bas, donc la zone 200. On retrouve bien notre étiquette 200. La zone comporte bien 93 octets. J'ai compté, faites-moi confiance. Alors, je précise sur octet parce que j'ai pris exprès un nom de personne qui contenait un accent, et on voit bien le dédoublement sur le E accent aigu. Elle commence bien à la position 140, là aussi j'ai compté. Et on retrouve la chaîne de caractères qui est notifiée dans le répertoire. Alors, évidemment, si on regarde cette notice dans un format XML et en particulier Marks Exchange, on ne peut pas appliquer ce genre de contrôle. Ce n'est pas possible. Déjà parce que le champ leader ici la balise leader, donc qui reprend le label de la notice, est traitée comme une simple chaîne. Donc, ce qui rend impossible ce contrôle. Mais évidemment, quand on va repasser la notice de Marks Exchange à un format marque et puis après un format d'échange ISO 2709, il va falloir systématiquement recalculer ce label. Ce répertoire, plutôt. Voilà donc pour la structure générale du schéma. On reconnaît au premier niveau l'élément de plus haut niveau, collection, qui permet la mise en œuvre, l'itération sur le niveau record. C'est en fait à cet endroit-là que commence la notice, qui gère un ensemble de sous-champs, enfin, dont le leader, qu'on a vu tout à l'heure, qui va récupérer le label de la notice de marque, avec un champ control field au même niveau, dans lequel on va faire figurer l'identifiant. Et enfin commence, je dirais presque notre travail de catalogueur ici, la déclaration des zones dans le data field et la déclaration des sous-champs dans le label subfield. Donc on a bien affaire à une structure hiérarchique. Là on est en plein dans XML. Donc on a réussi cette conversion pour manifester les informations dans un format beaucoup plus portable que le format natif Unimark. Alors, je parlais tout à l'heure de l'interopérabilité et j'aimerais qu'on voit ensemble comment elle se construit. Elle doit en fait combiner trois niveaux techniques pour garantir son succès, entre le jeu de métadonnées, le cadre générique d'implémentation et les protocoles qui vont permettre de faire véhiculer les informations entre les différentes plateformes. Donc en rouge, les formats auxquels nous sommes habitués, disons plus des standards plus traditionnels, et puis en vert, l'émergence de tous ces nouveaux formats qui transforment un petit peu notre métier, notre quotidien, et qui obligent à des adaptations applicatives et des adaptations métiers aussi. Donc on pourrait définir l'interopérabilité avec ces trois pôles, ces trois niveaux techniques. Et SRU est d'ailleurs mentionné tout en bas, voilà, dans les protocoles. Je l'ai pas oublié, ouf. Et j'aimerais, s'il nous reste encore un petit peu de temps, qu'on se penche sur ce protocole, qui est un protocole d'interopérabilité qui s'appuie sur le requêtage URL, pardon pour le néologisme. Donc là, on se situe vraiment d'emblée dans un niveau full web. C'est un processus synchrone qui permet d'interroger à chaud des bases de données, des informations qui vivent, qui sont vivantes dans d'autres plateformes. On n'a pas le caractère asynchrone de la récupération de données, hein, qui nécessite un traitement et qui rend les données disponibles un peu plus tard. Donc ça permet de produire des requêtes en temps réel sans reversement de données. Et surtout, pour nous, professionnels de l'infodoc, ça nous positionne en gestionnaire de flux. Elle peut être qualifiée, ce protocole peut être qualifié de complément à Z3950. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition, je ne pense pas en tout cas que SRU, comme on le dit souvent, c'est la succession des Z3950. On peut voir certains modèles de systèmes d'information qui mettent en œuvre ces deux protocoles côte à côte sans que ça pose de soucis. Simplement, on va les choisir en fonction de la qualité, c'est pas le terme exact, mais en fonction des propriétés des données qu'on reçoit. On voit que SRU, qui est en position centrale ici, permet d'aller interroger à chaud des données qui sont importées par un processus OAIPMH. Mais l'utilisateur en bas, qui est matérialisé par le petit ordinateur, lui, il interroge dans un portail fédéré des données qui proviennent de l'interrogation SRU dans un portail HTTP, aussi bien que des données qui sont véhiculées par le protocole Z3950. Donc, c'est ce qui me fait parler de complémentarité plutôt que de concurrence, en réalité. Alors, pour donner un petit exemple avant de parler d'Unimark, on peut très facilement fabriquer un web service qui reprend les termes de recherche dans un formulaire, qui les glisse dans une variable et qui les enveloppe de la syntaxe SRU de façon à permettre de produire une requête qui va une requête HTTP qui va fournir des résultats. Donc vous voyez que là les termes ont été enveloppés par la syntaxe SRU. On retrouve bien l'URL de base qui permet de solliciter le protocole SRU, qui est déclaré donc dans le paramètre version. L'opération demandée est sort retrieve. Les termes de la recherche, on les retrouve ici dans la query. Bon, là, j'ai mis par exemple que je voulais un maximum de notices de 2000, parce que j'ai interrogé le site de la bibliothèque du Congrès qui est très volumineux, donc pour ne pas surcharger le système. Et puis, j'ai aussi spécifié un format de réponse souhaité. Alors, le format de réponse souhaité, c'est une abréviation qui est fournie par le fournisseur SRU. C'est pas parce qu'on tape marque XML, on aurait pu taper n'importe quelle autre chaîne de caractères. Pour ça, il faut regarder, connaître les termes qui sont fournis par le serveur. Donc, voici un résultat pour montrer l'application de la transformation qui a été faite pour que cette notice arrive en format ici marque 21. Et puis, pour les paramètres de contrôle du schéma dont je parlais à l'instant, marque XML, il faut se reporter donc à la documentation du fournisseur de service. Et là, quel a été mon enthousiasme quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en voyant que il y avait peut-être une bibliothèque disponible qui s'appelle Unimark XML et que j'ai testée et qui en fait n'existe pas. Alors ça peut paraître logique que la bibliothèque du Congrès ne diffuse pas ses notices en Unimark. Pour ce qui concerne cette modélisation XSL, puisqu'on applique une feuille de transformation pour la présentation des données, seulement 4 formats sont retenus par la bibliothèque du Congrès: Dublin Core, Mods, Marque XML. Opaque XML n'est pas public, en fait j'en ai eu connaissance par échange avec un bibliothécaire de la bibliothèque du Congrès, qui sert en fait, donc il n'est pas référencé, mais c'est un moyen de trouver des informations sur les exemplaires à partir du serveur SRU, mais qui supporte exactement la même syntaxe que les termes d'interrogation pour les notices bibliographiques. Donc si on reprend un exemple et qu'on insère un nouveau paramètre sur la modélisation XSL, on peut obtenir ce genre de résultat. Donc là, la question qui a été posée, c'est sur un identifiant qui était connu, mais l'utilisateur, lui, reçoit ce résultat. Donc, sans quitter la sphère du web, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, SRU et Unimark. C'est une question un petit peu délicate puisque effectivement on a vu que la bibliothèque du Congrès ne diffusait pas. Il n'y a pas de record schéma prévu pour Unimark sur le serveur SRU et Voyager. Mais il existe tout de même une documentation assez riche qui est le gage de l'interopérabilité, de toute façon, sur les schémas Unimark, notamment celle fournie par la bibliothèque de Florence, qui elle affiche un service SRU. Et qui gère, comme l'a rappelé François tout à l'heure, des notices au format Unimark. Donc, concrètement, si on souhaite un record schéma Unimark XML, mais il faut construire soi-même ou avec l'aide d'un éditeur de logiciels. On ne peut pas négliger non plus les efforts qui sont réalisés en Europe autour de SRU et du format Unimark. Je tenais tout de même à le signaler. Alors là, malheureusement, je donne beaucoup d'exemples de bibliothèques qui gèrent du format plutôt Marc 21. Pour ce qui est de l'ABES et de la BNF, je crois qu'il y a beaucoup de travaux. C'est une question en devenir. Je pense qu'on ne peut pas se prononcer a priori sur ce qui va se passer par la suite. Et puis aux États-Unis, la bibliothèque du Congrès n'est pas la seule à utiliser ce format. Il y a aussi des éditeurs, notamment JSTOR, auxquels certaines des bibliothèques représentées aujourd'hui sont peut-être abonnées. Et WorldCat. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui freine le développement de SRU en Europe? Par par l'intermédiaire de la FULBI, j'ai l'occasion de discuter souvent avec des prestataires, des fournisseurs de logiciels, et j'ai retenu quelques phrases qui m'ont un petit peu, sinon choqué, disons interpellé. Par exemple, certains disent qu'il y a eu un engouement pour SRU jusqu'à ces 2-3 dernières années, et puis c'est redescendu. D'autres qui disent carrément qu'une non-livraison de module service SRU qui était pourtant spécifié dans un cahier des charges n'a jamais empêché les paiements de l'application, donc n'a jamais causé une non-signature de vérification de service régulier, par exemple. Et puis, beaucoup de soupçons de l'effet de mode. Alors, j'ai mis entre guillemets ces expressions que j'ai pu entendre en discutant avec les fournisseurs. Alors, la FULBI, elle a été évoquée ce matin par Agnès, et puis par Jean-Paul qui a posé une question aussi tout à l'heure, propose de lancer une thématique de travail autour de SRU pour tenter de favoriser son développement en France, ou au moins pour comprendre pourquoi ça bloque, avec trois objectifs étapes. Le premier, il s'agirait de mettre en ligne une traduction des sites de la bibliothèque du Congrès consacrée à SRU. Pour l'instant, une demande d'autorisation est en cours. Je sais que d'autres pays l'ont fait, par exemple le Japon, et j'espère bien faire aboutir cette demande pour l'été 2010. Le deuxième objectif serait la construction et la proposition de modèles XSL libres d'usage sur une plateforme de test, évidemment orienté pour l'exploitation des données en Unimark. Et puis la création d'une enquête beaucoup plus sérieuse que de simples conversations avec les éditeurs auprès des fournisseurs qui s'avancent SRU pour savoir ce qui freine leur développement. On peut se poser la question de savoir, est-ce que ça vient des bibliothèques, est-ce que ça vient des fournisseurs qui ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils prétendent, ou bien plus grave, est-ce que ça vient de difficultés qui sont liées au format ? Et de toute façon, il y aura un appel à contribution pour s'exprimer sur ce sujet. En quelques mots, je voudrais juste, pour orienter ma présentation qui était un petit peu en marge des autres, et vraiment montrer qu'elle sous-tendait quand même la préoccupation, des questions relatives à Unimark. C'est qu'il existe des outils pour construire des systèmes interopérables qui peuvent prendre en compte le format Unimark. Ça, c'est indéniable. Donc, on travaille sur un terrain tout de même assez favorable. Ensuite, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que l'interopérabilité se fonde sur l'usage d'un protocole ou un ensemble de protocoles qui doivent être richement documentés et sur une normalisation forte. On ne peut pas construire l'interopérabilité sans avoir confiance dans la structure des données qu'on doit traiter. Donc c'est un cadre favorable évidemment à la construction par exemple du web sémantique, et en France il existe un potentiel très fort avec les nombreux réservoirs de données en Unimark. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous donne ces deux adresses qui permettront peut-être aux gens que ça intéresse de dialoguer avec nous, la FULBI en particulier, autour de ces questions. Merci.